Cinésique Radio, le panorama des BO par Benoît Bazerico.
Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique Radio sur cinésique.fr et toutes les plateformes. N'hésitez pas à laisser vos notes et commentaires et à nous écrire via Cinésique sur Facebook ou Twitter. Ce programme revient sur un grand festival de cinéma qui ne se tiendra malheureusement pas cette année.
Oh, j'adore ce job, on rencontre toutes sortes de stars.
Panorama BO, le festival de Cannes en 20 palmes d'or, 20 musiques de films qui ont pu marquer le palmarès du festival de Cannes. Le festival de Cannes devait se tenir du 12 au 23 mai, l'occasion de vous proposer un retour musical sur 20 palmes d'or donc qui ont fait l'histoire du festival. Et avec moi, Thibaut Vic. Thibaut, bonjour.
Bonjour Benoît.
On va le faire chronologiquement en fait. Et la première palme d'or avec une BO marquante, c'était Le Troisième Homme de Carol Reed avec la partition de Anton Karas. Le compositeur autrichien signe là son unique musique originale au cinéma pour le film de l'anglais Carol Reed. Il était inconnu et c'est sur les repérages à Vienne du film que le compositeur a été repéré par le réalisateur et il a donc improvisé cette mélodie avec son instrument, la sitar. Donc on entend cette sitar au centre de la partition et cette sitar est un peu l'alter ego du personnage incarné par Orson Welles dans ce film.
La sitar fait partie du folklore autrichien et on a ce motif répétitif qui arrive tout au long du film comme un élément un peu extérieur, comme un élément de narration qui rappelle ce destin de personnage qui avance dans ce film noir.
Thank you. Palme d'Or en 1960, la Dolce Vita avec la ritournelle bien célèbre de Nino Rota pour son fidèle réalisateur Federico Fellini. Les Italiens donc avec cette pièce majeure pour Nino Rota, la plus libre et sensuelle de son auteur, toujours empreinte de sonorités jazz avec une trompette jamais très loin. Elle participe à l'ivresse et à la fête. Souvent visible à l'image, la musique environne les personnages, ritournelle entêtante qui circule d'une réalité la plus triviale, la pauvreté dans l'Italie, à l'imaginaire le plus fantasque. La musique est la porte de l'onirisme. Le spectateur est invité au voyage par le moyen de mélodies enivrantes et communicatives. Et Nino Rota prouve là encore qu'il est grand mélodiste. Un thème participe à la douceur du vivre du titre par sa légèreté, distillée de manière diffuse comme un parfum, prolongeant le climat d'insouciance, une ritournelle nourrie par de belles harmonies qui passent de la trompette à la guitare avec quelques cordes qui entretiennent le mouvement d'une valse lente qui semble faire danser les personnages. On reste avec Nino Rota et on reste dans la danse pour Le Guépard en 1963, Palme d'Or donc pour Luchino Visconti, troisième collaboration entre Nino Rota et Visconti, et toujours dans la valse, dans la danse, puisque Le Guépard est un film historique, on entend d'ailleurs du Verdi dans le film, et pour correspondre avec la période historique, Nino Rota a fait un peu un pastiche de Verdi, a fait un pastiche de valse de l'époque, et donc on entend dans la partition de Nino Rota le côté historique et en même temps original avec cette force de la ritournelle toujours chère à Nino Rota. Thank you. On reconnaît le célèbre thème des Parapluies de Cherbourg, signé Michel Legrand, Palme d'Or à Cannes en 1964. Michel Legrand retrouvait alors son cinéaste fétiche Jacques Demy pour leur première comédie musicale après Lola et l'Abbé des Anges. On devrait d'ailleurs plutôt dire film chanté, c'est ainsi que le réalisateur définissait son film, avant de se retrouver sur un vrai musical avec le plus joyeux Les Demoiselles de Rochefort 3 ans plus tard. Alors en effet, la nature entièrement musicale de ce film n'était pas le projet de départ, hein, c'est Michel Legrand qui proposa de faire chanter les dialogues, et donc ainsi tous les dialogues du film se retrouvent en chanson, soutenus par la musique et la mélodie que l'on entendait à l'instant. La musique n'est donc pas l'objet du film, comme ce sont souvent le cas dans les comédies musicales hollywoodiennes, où les comédiens et les acteurs chantent et dansent à l'image. Là, il s'agit de moments anecdotiques du quotidien, et pour Passe-moi le sel, passe-moi le poivre, c'est en chanson. Le scénario, en fait, est devenu chanson. À chaque morceau est ainsi enregistré en amont, et les comédiens ont pu être doublés a posteriori, c'est-à-dire Catherine Deneuve ne chante pas, a été doublée, donc il y a un travail également de synchronisation. Alors les chansons, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne brisent pas le réalisme des situations dramatiques, elles ajoutent de la poésie, mais elles aggravent également la tristesse et la mélancolie de l'histoire tragique finalement de ce couple divisé par la guerre d'Algérie. On retrouve Michel Legrand sur une autre Palme d'Or en 1971 pour Le Messager. C'est pour le cinéaste Joseph Louzet qu'il retrouve pour une nouvelle romance après Eva en 62, avant de le retrouver également à 2 autres reprises sur La Maison de Poupée et Les Routes du Sud, avec un autre grand thème au piano, Le Messager, donc Michel Legrand. magnifique thème signé John Barry, avec tout le lyrisme que l'on lui connaît. John Barry, donc, Out of Africa, Danse avec les loups. Alors là, c'était pour un film anglais, Le Knack et comment l'avoir, en 1965, Palme d'or donc pour Richard Lester, sur cette comédie. Ils se retrouveront ensuite à deux reprises, sur Petulia en 68 et le film historique La Rose et la Flèche en 76. John Barry, Richard Lester, donc cette Palme d'or en 65, Le Knack et comment l'avoir. On continue avec La France et Francis Lay, Palme d'or pour Claude Lelouch, Un homme et une femme en 1966, première musique de film de Francis Lay, le jeune Francis Lay qui livre là donc un thème pour le réalisateur Claude Lelouch, avec lequel il deviendra le compositeur inséparable. Leur union fait naître une véritable alchimie avec donc des mélodies marquantes, une mélodie dont on se souvient longtemps après la projection, chargée d'émotions. Et puis Claude Lelouch mettait les thèmes de Francis Lay sur le tournage, et pour Un homme et une femme par exemple, les thèmes conçus en amont du tournage ont pu conditionner l'émotion des personnages, les acteurs qui écoutaient la musique pendant le tournage. Autodidacte, Francis Lay écrit donc ses partitions seul avec son accordéon électronique, et puis ensuite un orchestrateur se charge de l'adapter à l'orchestre. Musicien donc qui peut être considéré comme un des acteurs du film, jamais loin des comédiens. Voilà donc pour la partition d'Un homme et une femme, signée Francis Lay. Musique d'Ennio Morricone pour La classe ouvrière va au paradis, avec ce rythme entraînant, déterminant qui correspond à cette révolution ouvrière. Voilà donc pour ce film d'Elio Petri, un film politique avec Ennio Morricone. Donc il est tandem qu'il se retrouve après un coin tranquille à la campagne et enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon en 70. On retrouve la guimbarde d'une chair à Morricone et tout un instrumentarium assez riche, cher au compositeur italien. Donc La classe ouvrière au paradis va au paradis. Palme d'or 70. 3 ans plus tôt, Palme d'Or pour Blow Up. Blow Up, c'est un film anglais pour l'italien Michelangelo Antonioni, pianiste, claviériste, compositeur de jazz. C'est Herbie Hancock qui se charge de la partition. Première BO pour l'homme de jazz Herbie Hancock, pour ce film donc culte de Antonioni. Blow Up. Piano solo pour la Palme d'Or, Conversation secrète de Francis Ford Coppola. Âgé seulement de 35 ans, Coppola, il revenait de son succès du Parrain, et après la grande fresque autour de la mafia, il s'intéressa cette fois-ci à un projet plus intime. Alors que le compositeur David Shire voulait au départ une partition d'espionnage pour orchestre, le cinéaste voulait justement, pour prolonger la dimension intime de son récit et pour illustrer la solitude du personnage incarné par Gene Hackman, proposa plutôt qu'un orchestre, un seul instrument, le piano en l'occurrence. Avec cet air épuré, Shire accompagne la simplicité du projet, le dénuement du protagoniste, une mélancolie teintée de jazz, une partition troublante qui transmet les émotions inhabituelles pour le cinéma américain d'alors. Loin des grandes fresques et des grandes productions, donc une musique qui contribue au renouveau du nouvel Hollywood, qui se détourne des grandes formations orchestrales pour plus de modestie, plus de minimalisme dans la partition. La proposition David Shire donc au piano prolonge également le fait que le personnage incarné par Gene Hackman est jazzman dans le film. Et on peut dire que cette partition de jazz annonce plusieurs autres partitions à venir de jazz dans le cinéma américain, notamment l'aspect cuivré de La Complainte, signée Bernard Herrmann pour Taxi Driver 2 ans plus tard. Taxi Driver, autre palme d'or, on va l'écouter maintenant, signé donc Bernard Herrmann, dans la continuité donc de Conversation Secrète, une teinte de jazz mélancolique dans Taxi Driver, cette fois-ci avec le saxophone. Un an avant son décès, donc en 76, le grand Bernard Herrmann signe une musique pour le réalisateur de 34 ans, Martin Scorsese. Il retrouve d'ailleurs ses cordes hein, qui a pu faire sa notoriété chez Hitchcock ou Orson Welles, et ajoute à l'orchestre, donc aux cordes, les cuivres et les percussions qui font une entrée marquante dans son univers. Des sonorités donc inédites jazz pour Bernard Herrmann, qui correspondent finalement aux déambulations nocturnes du personnage de Robert De Niro, avec le défilement des néons de la ville, qui représente un peu le versant lumineux d'un cauchemar.
D'ailleurs, les deux personnages principaux de ce film sont, comme tu l'as dit, donc Robert De Niro et New York, cette ville. Et dans la musique de Bernard Herrmann, on a vraiment l'imbrication, l'enchevêtrement des deux. On a cette atmosphère dans laquelle se trouve Robert De Niro. Il s'imbibe d'ailleurs de cette atmosphère, de ses errances, un côté un peu malsain, toujours un côté très très nocturne, un côté violent, mais on ne sait pas si c'est de la bonne ou de la mauvaise violence, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est des activités légales, illégales, les prostituées qui se cachent, ces néons qui clignotent, qui s'allument, mais qui sont complètement irréels. Donc on est vraiment dans un autre univers, dans une ville de New York complètement immersive.
Aspect irréel, errance fantasmagorique, et donc on peut l'entendre dans ce thème désabusé hein, qui correspond à la descente aux enfers du héros. musique, des notes de guitare devenues très célèbres, signées Ray Cooder, guitariste de blues à la base, et qu'il a donc signé ses notes très célèbres pour la Palme d'Or pour Wim Wenders, le réalisateur allemand, en 1995. En 84, il s'agit de Paris, Texas. Paris, Texas, donc, de Wim Wenders, qui entre dans la légende de la musique de film avec Ray Cooder. Cette partition s'était faite remarquer grâce à l'espace que lui attribue le film, un film contemplatif, les grands paysages texans désertiques. Nous sommes dans une sorte de western contemplatif et intime, et le choix de la guitare participe à l'analogie avec donc le western. Le personnage d'Harry Dean Stanton est comme un cow-boy sur le retour, et au lieu d'un harmonica que Morricone avait pu faire dans Il était une fois dans l'Ouest, et bien ces cordes pincées attribuent au personnage son caractère. La dimension mythique de cette partition repose aussi sur son écriture assez sommaire, la simplicité de son interprétation. Le musicien choisit une guitare à résonateur de la marque Dobro, proposant comme ça ces effets d'écho que l'on retrouve dans le blues, style qu'affectionne Cooder. Le thème inoubliable, joué ainsi, confère au film un son unique, le son du film Paris, Texas, et par son caractère plaintif, contribue à la mélancolie et on rentre ainsi dans l'âme du personnage. Paris, Texas à l'instant et autre partition marquante, elle aussi crépusculaire, mais qui touche aussi au divin. Il s'agit de Mission en 86, Palme d'Or pour Roland Joffé, et partition donc d'Ennio Morricone. Après la déchirure et la partition électronique de Michael Field, Roland Joffé fait appel au compositeur italien qui a pu dans cette partition exprimer toutes ses convictions religieuses à travers ce récit de deux jésuites au XVIIIe siècle. Il cite souvent cette partition élégiaque comme sa plus personnelle. Son approche musicale est multiple. D'abord, c'est la musique du personnage de Gabriel, qui est oboïste dans le film. Ensuite, ce sont des percussions ethniques qui correspondent à la menace des aborigènes. Et enfin, c'est la présence de chœur pour inviter le divin dans la partition. Mission, musique d'Ennio Morricone.
Thank you.
Magnifique et poignante partition signée Angelo Badalamenti pour Sailor et Lula de David Lynch en 1990, poignante donc avec cette montée en puissance de l'émotion, tout d'abord souterraine et qui éclate au grand jour dans ce film donc de tandem amoureux, Sailor et Lula, où se mêlent le sang, la carcasse de voiture et l'émotion éclatante. Donc Sailor et Lula, 90, Palme d'Or donc pour David Lynch, sa Palme d'Or donc en 90. Il le retrouvera d'ailleurs sur ce film donc une deuxième fois, Badalamenti, depuis leur rencontre sur Blue Velvet. On continue avec un autre tandem américain des années 90, très habitué à Cannes, les frères Cohen, Palme d'Or en 91 avec Barton Fink. Il retrouve pour la quatrième fois le compositeur Carter Burwell, hein, depuis leur rencontre sur 100%, et ensuite Arizona Junior et Miller's Crossing, et donc là c'est Barton Fink. Le compositeur franchit un cap dans son travail thématique avec un thème poignant, là encore sa partition est celle du personnage de Barton Fink. Il s'agit d'un jeune auteur timide en mal d'inspiration, incarné par John Turturro, et la construction du thème dans le film accompagne les doutes du personnage, qui cherche l'inspiration, ne la trouve pas, et se fait déconcentrer par son voisinage dans l'hôtel, et finalement comme ça il y a un motif qui se dessine progressivement et qui finit par être entendu de manière complète qu'à la fin du film. Donc il y a un peu voilà un exemple canonique de construction thématique pour accompagner l'inspiration du personnage de l'écrivain. Burwell nous restitue musicalement ce qui se passe dans la tête du dramaturge, en parallèle donc de l'avancée créative du héros.
Thank you.
magnifique thème pour la leçon de piano Palme d'Or en 1993 pour Jane Campion est encore aujourd'hui l'unique Palme d'Or remis à une femme réalisatrice. Voilà donc la leçon de piano Palme d'Or féminine en 1993 avec la musique de Michael Nyman. Michael Nyman qui était jusqu'alors connu pour sa collaboration avec Peter Greenaway, l'anglais, pour qui il composait des musiques plutôt répétitives et entêtantes, même parfois virulentes. Et pour le film romantique de Jane Campion, il s'assagit légèrement, il propose même pour la première fois une partition sensuelle et douce. D'une part, sa musique épouse le contexte historique du 19e siècle avec une musique dans une veine un peu chopinesque, mais sans tomber pour autant dans le pastiche, par la maintenance d'une certaine modernité dans l'écriture. Et d'autre part, la partition épouse évidemment le point de vue de l'héroïne muette qui est pianiste. Et donc à travers elle, il choisit l'instrument du piano, l'instrument du personnage. Donc il y a tout un univers musical subjectif à travers cette partition de Michael Nyman pour la leçon de piano. On continue avec Palme d'Or en 1995 pour Underground avec un autre habitué à l'époque de Cannes qui était Emir Kusturica et puis donc le compositeur attitré à l'époque de Kusturica qui était Goran Bregovic. Il le retrouve pour la troisième et dernière fois après Le Temps des Gitans et Arizona Dream. Et puis évidemment on retrouve toute la patte des Balkans pour cette partition de Underground, Kusturica étant considéré comme le Fellini des Balkans. Magnifique thème signé Eleni Karindrou, compositrice grecque qui retrouve son fidèle compatriote Theo Angelopoulos pour la Palme d'Or « L'éternité et un jour » en 1998. Grande mélodiste lyrique, la compositrice grecque propose un thème majestueux à l'orchestre pour glorifier la vie, qui est décliné en fonction des situations avec toutes les instrumentations possibles, et donc à l'orchestre, mais aussi avec un piano seul, comme on vient de l'entendre. Parfois mesuré, donc, le thème devient ample en se déployant. Il circule également de la fiction avec un violon dans l'image qui interprète la ritournelle. À l'instant de narration quand elle soutient l'émotion. C'est une mélodie qui nous envoûte. Elle accompagne le sentiment funèbre du film, alimenté par des apparitions fantomatiques. Célébrant la vie, donc, la musique semble aussi faire renaître les morts, à l'image de cet écrivain mourant qui se rappelle de sa vie passée. La partition joue ainsi sur différents niveaux de temporalité. Elle est un pont entre le passé et l'avenir et le présent, dans une sorte d'univers proustien, entre la nostalgie et la désillusion. Dans sa dynamique dansante, elle prend les atours d'une valse. La musique nous invite à la danse, dans une insouciance juvénile, mais avec la sagesse de l'histoire qui se raconte au passé. On continue avec une comédie musicale qui, bien longtemps après Les Parapluies de Cherbourg, a reçu la Palme d'Or, Dancer in the Dark, du Danois Lars von Trier, avec donc la musique de Björk. Alors il y a différentes chansons dans le film qui ont fait l'objet d'un album, qui peut être considéré comme un album en soi de Björk. J'ai choisi, moi, de vous faire écouter plutôt le thème d'ouverture, qui est instrumental, Björk, compositrice du film, donc, avec cette ouverture. Le dernier thème marquant issu d'une Palme d'Or à Cannes, il faut remonter à 2001 pour qu'il y ait le dernier thème marquant, sachant que il faut aussi indiquer que beaucoup de Palmes d'Or sont dénuées de musique, hein, comme les films des Frères Dardenne ou de Ken Loach, ou encore des musiques préexistantes comme Pulp Fiction. Donc la musique de film et le Festival de Cannes n'ont pas forcément toujours fait bon mariage. Et donc le dernier thème marquant date de 2001 avec cette mélodie signée Nicola Piovani pour sa dernière collaboration avec l'italien Nanni Moretti. Il s'agit comme de l'aboutissement d'une œuvre commune, hein, qui va de Journal intime à La messe est finie ou Palombella Rossa, une série de films avec toujours plus d'émotion jusqu'au dernier acte qui est le climax de leur collaboration avec cette question du deuil d'un fils dans ce film à la mélancolie introspective, une mélodie donc avec une véritable osmose avec le personnage central d'un père en deuil en remise en question permanente incarnée donc par le réalisateur lui-même qui joue le rôle. La musique va alors prendre en charge le mélo, en soutenant le drame puis la tristesse, et en même temps une légèrement à distance, pour une pudeur délicate, dans la manière de faire intervenir par vagues successives la reprise du thème au piano, laissant du silence entre chaque moment musical. Les notes ne sont jamais là pour les moments forts, mais pour les ellipses du montage, aidant à échapper au pathos. La musique devenant des intermèdes pour maintenir un sentiment proche du spleen, ni dans le larmoyant, ni dans le décalage complet. Nicola Piovani est donc un équilibriste des émotions, qui a su donc gérer les ingrédients pour être en toute sobriété avec Nanni Moretti. Voilà donc notre panorama des 20 BO donc de notre choix pour 20 Palmes d'Or du Festival de Cannes.
Faites semblant de dormir. Un maximum de cinéma.
Et donc en plus des 20 BO de notre panorama des Palmes d'Or de Cannes, un petit bonus avec évidemment la dernière en date, Parasite, le film coréen, donc Palme d'Or en 2019, dernière Palme d'Or de la décennie, et donc il n'y aura pas de Palme d'Or en 2020, et donc c'est Parasite, film coréen, donc à succès de Bong Joon-ho, avec son compositeur Jeong Ja-il, qui propose donc pour ce drame familial et social, différentes palettes, donc c'est un vrai caméléon dans ce film, hein, qui passe du thriller avec des cordes, qui passe de la chanson finale, qui est une chanson originale, ou encore à un piano pour une mélancolie.
Alors oui, d'abord un piano très Philip Glass, un piano minimaliste et un peu répétitif, qui va donner un peu le thème du film, c'est-à-dire c'est comme le spectateur au début du film, on est tous un peu naïfs, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer et on va recevoir des surprises au fur et à mesure du film. Et puis ensuite il y a des parties musicales très rythmées, des percées de percussions, des percées voilà très très militaires, un peu comme ce combat, cette lutte des classes entre cette famille pauvre et cette famille riche. Mais si le film n'était qu'un film sur la lutte des classes, ça serait pas aussi intéressant. Et la musique suit ce cheminement. Avec cette bande originale, on a la représentation de personnes, de figures qui veulent paraître différentes de ce qu'elles sont vraiment. Et tout le film va être un jeu de dupes. On aura même des chœurs d'enfants. Cette BO marque assez durablement, d'ailleurs, comme le film, parce qu'elle n'est faite que de surprises et de sursauts.
Parasite, donc, on va terminer ce podcast sur Parasite, cette musique de Jeong Jo-il. Alors, merci Thibaut, merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir. Et vous pouvez, donc, je le rappelle, retrouver tous nos podcasts sur les plateformes habituelles et sur cinésique.fr. Au revoir.
Au revoir, Benoît.